Saison 4. Le printemps. Chapitre 44. Le 13e champion.
Regarde, Pou !
Fit Zizo.
Louponero est en tête ! Lou ! Lou ! Lou !
Cria l'enfant prématuré en sautillant sur place. Zizo, Sabi et Valère sourirent. Comme tous les autres ados, ils étaient assis sur l'une des marches du monumental escalier, devant l'esplanade du nouveau château qui surplombait le parc et le grand canal. La vue était imprenable sur le parcours du tournoi de l'étoile et le passage des champions. L'intégralité de la largeur de l'escalier était occupée par les élèves, les singes à droite vers le bassin des enfants dorés, les savants à gauche vers le bassin du miroir et les soldats au milieu, face au bassin de l'Atone. La plupart des ados avaient coincé entre leurs genoux un drapeau de la couleur de leur pavillon ou de leur aile, selon la nouvelle dénomination officielle. Seule une infime partie des spectateurs, comme Zizo, Sabi, Valère et Pou, n'avaient pas choisi l'un des trois camps et se contentaient de soutenir le champion de la reine. Les membres du conseil étaient les seuls à ne pas occuper les escaliers transformés en gradins. Ils étaient assis 5 mètres au-dessus de l'escalier, dans une tribune couverte, dressée pour l'occasion. Ainsi installés dans une tente surélevée, ils avaient le privilège de pouvoir mieux apprécier la progression des candidats du tournoi, mais surtout d'être protégés des insolations. Depuis quelques jours, un puissant soleil s'était invité à Versailles, et l'on était passé, en à peine une semaine, d'un froid hivernal gelant la surface des bassins et du Grand Canal à une température printanière. On croyait voir à vitesse réelle les feuilles des arbres se déplier et les bourgeons verdir aux branches des tilleuls ou des marronniers. Les ministres au grand complet, ainsi que la reine, le grand cerf et le secrétaire général de la paix, avaient donc pris place sous le toit de toile de la tribune officielle. Augénor, d'ordinaire peu concerné par le tournoi de l'étoile, avait curieusement insisté cette année sur l'importance du protocole. Les 13 champions du tournoi entamaient un nouveau tour de parc. Ils devaient en boucler 5 avant de franchir la ligne d'arrivée et passaient pour la 4e fois devant les gradins. Ils furent salués par des encouragements timides et quelques drapeaux mollement agités. Le lancement du tournoi de l'étoile, il y a 1 heure, avait pourtant été accompagné par une bruyante cacophonie. Un déluge de confettis, un feu d'artifice de pétards, et dès l'arrivée des héros, un arc-en-ciel d'étendards bleus, rouges, or, de hurrahs et de chants de joie hystériques s'étaient élevés des gradins. Les soldats, notamment, s'en étaient donnés à cœur joie entre encouragements vibrants pour leurs champions et moqueries envers ceux des autres pavillons. Les « Allez Novak ! Allez Cheyenne ! Allez Helios ! Allez Wayne !» scandés à l'unisson avaient retenti sur les marches de l'escalier. Ils avaient couvert tous les autres noms jusqu'à ce que le départ soit donné et que les concurrents s'élancent dans l'allée des pans en direction du Grand Canal jusqu'au Trianon. À la stupeur générale, une évidence s'était imposée dès le coup d'envoi. Les 4 champions des soldats, musclés, motivés et surentraînés, paraissaient aussi lourds et lents que des éléphants, si l'on comparait leur vitesse de déplacement à celle du champion de la reine, désigné au tout dernier moment, Louponero. L'enfant loup avait remporté avec une facilité déconcertante le premier tour de parc, l'épreuve de la vitesse. Plus que courir, il donnait l'impression de galoper. Et il était passé devant la tribune officielle alors que le plus rapide de ses concurrents, Novak, traînait plus de 50 mètres derrière lui. Loupo avait bouclé plus facilement encore le 2e tour de parc, l'épreuve de l'adresse, creusant l'écart dans l'allée du manège où les champions ne devaient pas mettre le pied à terre et avancer en se suspendant aux branches des ormes alignées dans l'allée. L'inquiétude était montée dans le camp des soldats.
« C'est truqué !» avait protesté Idriss dans les gradins de l'escalier. « L'épreuve a été choisie exprès !» avait ajouté Django. « Ce sauvage vit toute l'année dans ces arbres comme un saint !»
Les regards noirs d'Olympe et de Minerva, assises à leur côté, les avaient empêchés d'aller au bout de leurs pensées. Loupo n'avait pas ralenti davantage lors du 3e tour de parc, au moment d'affronter l'obstacle annoncé comme le plus redoutable du tournoi, l'épreuve du courage, Une poutre de bambou avait été posée en travers du grand canal. Pour franchir le bassin, large de 60 mètres, il fallait marcher en équilibre sur le poteau, en évitant de tomber dans l'eau, qui ne devait pas dépasser les 8 degrés. Louponnero l'avait traversé en courant, à croire qu'il aurait pu danser sur la poutre, sauter dessus à cloche-pied ou même y faire le poirier. Les plus motivés des supporters soldats étaient écœurés. L'enfant sauvage, simplement vêtu d'une ample tunique qui lui tombait aux genoux, entamait en petite foulée son 4e tour, l'épreuve de la force, dont on ignorait encore la nature. Peu importait d'ailleurs, avec 3 médailles en poche, Louponnero était déjà assuré de remporter le tournoi de cette année. Sur les marches de l'escalier, les ados les plus éloignés de la tribune officielle commentaient en chuchotant. Dans les rangs des savants, Lunella racontait à Haussmann et Braza qu'Alix avait choisi Louponnero comme champion pour une seule raison, contrarier Eugénor. L'opposition entre la souveraine et le grand cerf, sur à peu près tous les sujets, était désormais connue de tous. Les débats entre la reine et son conseiller était particulièrement vif dès qu'était abordée la question des prémats ou de Mordelia et Bill. La sorcière et son complice n'avaient d'ailleurs pas été autorisés à quitter leur prison pendant le tournoi de l'étoile. Ils avaient dû se contenter d'assister au passage des champions à travers les fenêtres barricadées du Grand Trianon. En ce jour particulier, les soldats étaient trop occupés par le tournoi pour les surveiller. Eugénor était-il contrarié par le triomphe de Louponnero? Tous les ados en étaient persuadés, mais le grand cerf, assis dans son fauteuil roulant au centre de la tribune officielle, ne le montrait pas. Il assistait, stoïque et muet, entre Alix et Akan, Puggy sur ses genoux, à la consécration de l'enfant sauvage. Cheyenne salua la foule. Elle venait elle aussi de franchir avec brio l'épreuve de la poutre, ce qui la classait bonne deuxième de la course, devant Novak, mais loin derrière Lupo. Elle attrapa le petit drapeau rouge lancé par Gulo Gulo et l'agita. Seuls quelques derniers soldats fidèles, Florentine et Noélie, répondirent à son appel. Côté savant, la démotivation était pire encore. Ils avaient placé tous leurs espoirs dans les baskets sophistiquées que Pastor et Moebia portaient, équipées de micro-ressorts et de crampons-griffes, des petits bijoux de technologie mis au point après l'observation des pattes des lézards. Les savants auraient mieux fait d'étudier les muscles tatoués de Louponnero qui couraient, sautaient, grimpaient 10 fois plus vite qu'eux, et pieds nus. Les singes, de leur côté, se désintéressaient totalement de l'épreuve. Ils avaient simplement encouragé Donatello et Abou, pour le principe, pendant un demi-tour de piste. Leur cœur était ailleurs, impatient que s'achève cette compétition, aussi intéressante à leurs yeux qu'une course de hamster en cage. Le grand bal serait ouvert ce soir, dans la galerie des glaces, et ce serait enfin leur heure. Danse et musique, costumes et perruques, ils avaient tout préparé dans les moindres détails, depuis des semaines. De toute façon, tout suspense concernant l'issue du tournoi étant éventé, les conversations dans les marches de l'escalier portaient presque exclusivement sur les couples, pour la plupart connus, qui s'afficheraient dans la soirée, mais aussi sur les surprises de dernière minute sur lesquelles on pariait.
Lou ! Lou !
Continuait de crier Pou, bien après que Louponnero était passé. Dans les gradins à nouveau amorphes, à peine secoués par quelques applaudissements pour les champions attardés, on n'entendait que lui.
« Lou ! Lou ! Quoi ?»
cria encore le prémat.
« Come, come, come !»
Puggy venait de le rejoindre. Il avait sauté des genoux d'Eugénor et avait trotté jusqu'à l'enfant prématuré pour quémander quelques caresses. Le carlin resta quelques secondes, la langue pendante, cherchant à lécher la lollipop pistachoco de Sabi.
« Dégage, la boule de poil !»
Sabi n'était pas très fan des chiens. Puggy repartit ventre à terre en direction de la tribune officielle et bondit sur le fauteuil roulant de son maître. Le chiot semblait jouer les médiateurs entre le grand cerf et le prémat. Il partageait désormais son temps entre Génor et Pou, que ce soit pour la sieste, les câlins ou les jeux. Tel un enfant essayant maladroitement de réconcilier ses parents séparés, pensa Zizo. L'image lui parut aussitôt étrange, même si les livres du monde d'avant le passage du nuage parlaient souvent d'histoires d'amour, puis de séparation, d'enfants déchirés entre un père et une mère fâchés, de la vraie science-fiction.
Wouah! Wouah! Pfiou!
Protesta Pou, peiné que son animal préféré se soit éloigné. On lui avait interdit de jouer avec sa yak. Elle était rangée dans sa poche. Solario tenait à ce que le prémat perde l'habitude de la fixer pendant des heures. Depuis qu'il n'avait le droit qu'à 60 minutes de yak par jour, Pou s'intéressait à beaucoup d'autres trésors. Le vent dans les feuilles, la course des nuages, le vol des canards au-dessus du grand canal. Il reconnaissait désormais près d'une cinquantaine d'objets sur son imagier, alignait des syllabes pour composer des débuts de phrases, et le ministre des Voyages, qui continuait de passer des heures avec lui, était persuadé qu'il parlerait correctement avant la fin de l'année. Sur le plan physique, les progrès de Pou étaient tout aussi spectaculaires. Il grandissait, grossissait, et n'avait plus rien à voir avec l'enfant chétif trouvé sur son lit dans la clinique des Immortels. Ses bras, et surtout ses mains, étrangement longues en proportion du reste de son corps, possédaient une force qui lui permettait de briser des objets, le plus souvent des branches pour les feux de cheminée, que la plupart des soldats auraient à peine réussi à tordre. Selon l'ombre au tableau, les cauchemars de Pou étaient de plus en plus fréquents. Il se réveillait souvent plusieurs fois par nuit, en criant toujours ce même mot, dont personne n'avait compris la signification, si ce n'est qu'il déclenchait chez Pou la pire des épouvantes, qu'il exprimait en hurlant, assis dans son lit de plus en plus fort.
Or! Or! Or!
Aïe, aïe, aïe! Crièrent les deux tiers des supporters. Ils retenaient leur souffle. Hélios, bien calé dans le premier tiers des concurrents, tentait à son tour de traverser le canal sur la poutre de bambou. Ses bras moulinaient, cherchant désespérément à rétablir son équilibre. Il se tortilla, leva une jambe, tous crurent un instant qu'il allait y parvenir, puis, tel un pantin dont on aurait coupé les fils, s'étala de tout son long dans l'eau glaciale du canal. Un immense éclat de rire traversa les gradins. Même les soldats ne s'en privèrent pas. Enfin, il se passait quelque chose d'intéressant pendant ce tournoi. Hélios ressortait déjà de l'eau, agrippé à la poutre, escaladant le rebord du grand canal, trempé de la tête aux pieds, ses éternelles lunettes de soleil disparues au fond du bassin. Il jeta un regard noir à la foule hilare et tenta de s'éloigner de l'ombre des ormes pour laisser le soleil le réchauffer. Sa démarche de canard provoqua un nouvel éclat de rire général. Hélios s'était blessé en tombant et boitait. Il ne se passa pas grand-chose dans les minutes qui suivirent, à l'exception du défilé devant les gradins et la tribune des candidats traînards démotivés qui continuaient la course sans conviction.
« Loup! Loup !»
cria de nouveau Pou, qui se remettait à peine d'avoir tant ri avec la foule devant le plongeon d'Hélios. Car depuis quelques semaines, Pou avait aussi appris à rire. Louponero remontait déjà l'allée du manège, le long du grand canal, pour boucler son quatrième tour. Sabi se tourna vers Zizo, visiblement ravi de la tournure des événements.
« Regarde la tête de Nonor! Il est trop dégoûté! S'il veut un jour aller plus vite que Loupo, va falloir que les savants greffent un moteur à son fauteuil!
» Valère, assis sur la marche du dessus, pencha sa tête rouge rendue encore plus écarlate par le premier soleil de l'année entre celle de Zizo et Sabi.
« Je crois qu'au contraire, Augénor est ravi !»
Ils glissèrent tous les trois un regard furtif vers le grand cerf. Impassible, il fixait le parc sans qu'on sache s'il regardait les coureurs, le reflet des rayons sur la surface du grand canal ou les fenêtres du grand Trianon au loin. Une fois de plus, Puggy avait sauté de ses genoux pour rejoindre Pou.
« Augénor, ravi !» s'étonna Zizo. « Tu rigoles ? Il déteste Louponero. » « D'accord, » confirma l'historien. « Il aurait préféré que Novak ou Hélios gagnent, mais je suis sûr qu'au fond, il se fout du vainqueur. Ce qui compte pour lui, ce sont les jeux du cirque. »«
Les jeux du cirque ?» répéta Zizo sans comprendre.
« Ouais !» continua Valère en essuyant d'un revers de main son front couvert de sueur. Des jeux, des trucs qui ne servent à rien, qui occupent les gens, qui les empêchent de penser à autre chose. C'est à ça que servaient les jeux du cirque dans l'Ancien Monde, ou les Jeux Olympiques, ou des siècles plus tard, la télévision transformait les gens en moutons. Tant que les moutons s'amusent, chantent, dansent et ont assez d'herbe à brouter, ils sont contents. Zizo essaya de réfléchir à ce que Valère venait de dire. Sa théorie expliquait pourquoi Augénor s'était intéressé cette année au tournoi de l'étoile alors qu'il s'en moquait depuis toujours. Tout comme le grand bal de ce soir? Une distraction pour que les ados ne discutent pas ses décisions? Au moment où Zizo allait répondre à l'historien, Sabi attrapa Valère par le col et secoua sa tête de fraise des bois comme un prunier.
Sauf que je suis pas d'accord, petite tête d'allumette. C'est pas fromage ou dessert. Notre vie, c'est pas choisir entre s'amuser comme des petites hirondelles sans cervelle ou porter le poids du monde sur nos épaules en ronchonnant parce qu'il est trop lourd. Les jeux et la danse sont aussi utiles que la politique. Lou, Lou, Lou !
S'égosillait Pou à leur côté. L'enfant loup surgissait à nouveau face à eux, dans sa façon caractéristique de courir, légère et élégante. À l'exception de Pou, Sabi et Zizo, presque personne n'encouragea son arrivée. Ils entendirent simplement Alix, Akan, Solario et Agnel applaudir dans la tribune officielle et faire plus de bruit à eux quatre que le reste des 200 ados assis sur les escaliers. Lupo Nero se rapprochait du grand canal devant eux et s'apprêtait à prendre un tour d'avance sur Helios, désormais bon dernier de la course. Le soldat se tenait près du bassin, attendant que le soleil sèche ses vêtements trempés. Il avait essayé de continuer de courir, de marcher au moins, mais sa jambe le faisait trop souffrir. Ses yeux, habituellement cachés derrière ses lunettes noires, étaient plissés comme ceux d'un serpent. Lupo Nero le dépassa. Est-ce que les applaudissements de Solario et Daniel furent un peu trop exagérés? Est-ce que les cris enfantins de Pou, Lou, Lou, Lou furent trop aigus? Est-ce que l'encouragement de Valère «
Bravissimo, Lupo !»
fut superflu? Helios tendit le pied, juste au moment où l'enfant sauvage passait et s'apprêtait à grimper une seconde fois sur la poutre de bambou. L'enfant loup, surpris en pleine course, s'étala de tout son long dans le gravier. Le public endormi se réveilla d'un coup. Un murmure d'étonnement parcourut les gradins. Lupo n'était vêtu que de son habituelle tunique de cuir. Il s'était écorché les jambes dans sa chute. Il se releva en titubant, sa tunique déchirée à la hauteur de l'épaule, le menton maculé de sang. Il était pourtant déjà prêt à repartir. Il ne jeta pas un regard au soldat aux yeux de serpent, ne prononça pas le moindre mot. Il lui tourna simplement le dos, comme si Helios n'était pas plus important qu'un caillou sur son chemin contre lequel il aurait buté, et posa un premier pied nu sur la poutre de bambou. « Le top de la classe !» pensèrent tous les supporters de Lupo Nero. « Le comble du mépris !» estimèrent les autres. Et Helios dut le penser aussi. Un simple caillou sur son chemin? Tiens. Helios se pencha et ramassa une des pierres grises qui décorait la rocaille du bassin. Lupo Nero, penché devant lui, prenait appui sur la poutre pour commencer sa traversée. Helios leva la pierre le plus haut possible, bras tendu, puis soudainement l'écrasa sur le crâne de l'enfant sauvage. Lupo Nero bascula dans le canal. Il y eut un bref silence de stupéfaction, comme si les ados n'arrivaient pas à croire la scène à laquelle ils venaient d'assister, avant que des dizaines de cris d'horreur s'élèvent des marches de l'escalier. Akan fut le plus rapide à réagir. Il se précipita hors de la tribune officielle, sauta d'un bond prodigieux par-dessus l'escalier et sprinta vers Helios. Le soldat restait tétanisé, ses bras le long du corps, la pierre rougie tombée à ses pieds. Tous les spectateurs dans les gradins scrutaient l'eau lisse du grand canal, espérant voir la tête de Lupo Nero en crever la surface. Près du bassin, les champions attardés s'étaient regroupés. Novak essayait de protéger Helios de la colère de Cheyenne, abasourdi par le geste du soldat. La soldate du tipi hurlait
« T'es cinglé ou quoi ?»
« Bien fait pour lui !» cracha Donatello.
Une grimace de mépris déforma le visage du champion des singes, aussi arrogante que les portraits qu'il était habitué à peindre. Les concurrents commencèrent à se bousculer, puis à en venir aux mains. Wayne faillit à son tour tomber dans le bassin. Le tournoi de l'étoile allait-il se terminer en bagarre générale? Était-ce cela l'épreuve de la force? Déjà plus d'une minute que Lupo Nero avait coulé. Akane parvint à s'interposer et à séparer les belligérants. Il ceintura Helios avec vigueur, avant qu'il n'ait le temps de ramasser de nouveau sa pierre. La plupart des soldats, en dépit de la gravité du geste d'Helios, avaient pris le parti de défendre leur ami. Certains, comme Django, Idris et Diana, étaient descendus des gradins pour se mêler à la lutte. Une dizaine de soldats surentraînés encerclaient le secrétaire général de la paix, le menaçant de leurs baux et de leurs poings.
« Te préviens, gorille !» cria Django. « Lâche-le ou on t'envoie rejoindre le loup !»« Reculez !»
hurla une voix derrière eux. Jean d'Arc avait lui aussi quitté la tribune. Le ministre des Punitions fit tournoyer son beau de chêne à quelques centimètres des crânes des soldats.
« Ça suffit ! Diana et Cheyenne, escortez Helios. Vous l'enfermerez dans la cave du Grand Trianon. On réglera ça plus tard. »
Aucun soldat, pas même Novak, ne discuta la décision de leur chef. Akane et le ministre des Punitions échangèrent un bref sourire complice et dans le même mouvement fixèrent avec inquiétude la surface du canal. Plus de 3 minutes déjà que Lupo Nero avait coulé. Personne ne pouvait tenir en apnée aussi longtemps. Personne ne pouvait survivre dans une eau à moins de 10 degrés. Le bassin était profond d'au moins 2 mètres. Le sonder prendrait beaucoup de temps. Il faudrait faire flotter une barque, s'équiper de longues perches, tâtonner jusqu'à retrouver le corps noyé. À moins que le cadavre ne remonte flotter à la surface dans quelques heures la nuit prochaine. La nuit du grand bal. Zizo, comme tous les autres ados installés sur les escaliers, s'était levé. Son regard ne savait plus où se poser. Sur le grand canal, qu'il continuait de fixer obstinément, même s'il n'y avait plus aucun espoir. Sur les gestes précis de Jean d'Arc et d'Akane pour calmer les champions près du bassin alors qu'Helios continuait de se débattre proche de l'hystérie. Ou sur la tribune officielle où Alix se tenait debout, aussi pâle que les camélias de sa couronne, ses 5 stupides médailles destinées aux vainqueurs autour du cou. À sa droite, Ogénor semblait se désintéresser totalement de l'agitation qui l'entourait, et plus encore de la disparition de Lupo Nero. Il baissait les yeux autour de son fauteuil, comme s'il cherchait un objet qui en serait tombé. Qu'avait-il perdu? Zizo mit quelques secondes à comprendre. Il cherchait Puggy, bien entendu. Le chiot avait dû être effrayé par les cris et s'était sans doute réfugié dans les bras de Pou. Zizo se retourna. À côté de lui, Valère fixait la surface du lac, les yeux exorbités. Sabine ne lâchait pas du regard à Akane, craignant qu'un soldat vexé ne lui assène un coup par derrière. Et Pou? Pou n'était plus là.
Pou! Pou!
Dans la confusion générale, l'enfant prématuré avait disparu et personne ne s'en était aperçu. « Il ne peut pas être loin », se rassura Zizo.
« Pou? Pou ?»
Sabi et Valère avaient compris. Ils se mirent eux aussi à l'appeler, à le chercher. Solario puis Agnel les avaient rejoints.
« Pou? Puggy? Pou ?»
Ils eurent beau tendre l'oreille, balayer les alentours du regard, ils ne découvrirent aucune trace, n'entendirent aucun cri, ni du préma, ni du chiot. Ils commencèrent à se disperser dans le parc. Sabi se dirigea vers l'orangerie, Agnel et Solario vers le bassin de Saturne, Zizo vers celui des enfants dorés, alors que Valère continuait de longer le grand canal.
« Pou! Pou !»
Le parc était vaste. Plus de 1000 hectares, l'équivalent de 2000 terrains de balles d'autruche, 40 fois la surface de l'ancien verger. Pou pouvait être caché n'importe où. Par les fenêtres ouvertes de la galerie des glaces, quelques accords de violon et de guitare résonnaient. Déjà, Isalis, Soutim et les autres singes préparaient le grand bal.
Pou et Puggy, disparus. Louponero, mort noyé. Qui pourrait bien avoir envie de danser ?